Bonjour, merci d'être là à cette heure du repas. Et voilà, on va parler de fantastique et de peur. Et moi, j'ai mis mon cahier dans une flaque d'eau.
On espère que c'est de
C'est de l'eau. Le fantastique moderne, le plaisir de se, entre guillemets, entre parenthèses, faire peur. Avec moi, Christophe Nicolas au centre, habitué lui au thriller fantastique. Trois bouquins, un autre projet Harmonie et Le Camp qui vient de paraître en pocket. Oui. Et le dernier est né, c'est Chute au fleuve. Alors quelques nouvelles aussi, et ces romans sont des page-turners, hein, mêlés souvent de fantastique, sauf le dernier, vient-il de me dire, qui est quasiment du pur polar. Jonathan Reynolds, le Québécois de la journée. Alors lui, c'est un écrivain, il est jeune encore, hein, pourtant, mais 22 bouquins, une trentaine de nouvelles, beaucoup de livres pour la jeunesse. Son moteur, c'est l'épouvante, donc il est vraiment adéquat dans ce débat. Et ses titres sont, vous comprendrez immédiatement, Cris de sang, Les têtes volantes, Terrificorama, Les immondes. Celui qui est là, c'est La légende de McNeil, aux éditions Les Six Brumes, qu'il a cofondé. Et sinon, tous ces bouquins jeunesse paraissent aux éditions Zélé. Z apostrophe Zélé.
Tout à fait.
Adrien Thomas, à gauche, prix Imaginal il y a quoi? 3 ans? Il y a 5 ans déjà. Auteur de fantasy au départ, La geste du 16e royaume, La maison des mages, et Notre-Dame des loups, qui est un bouquin à la fois fantasy, historique, épouvante. Beaucoup de nouvelles aussi, dont dans des anthologies imaginales. Mais voilà, le fantastique est, vous le savez, historiquement, l'irruption du surnaturel dans le cadre réaliste d'un récit. Et ces événements inexplicables suscitent l'angoisse, la peur, sinon l'épouvante. Lovecraft disait que la peur est la plus vieille et la plus forte émotion de l'humanité. Et il ajoutait, la forme de peur la plus ancienne et la plus forte est celle de l'inconnu. Est-ce que c'est une pensée qui vous va?
Oui, je vais prendre la balle au bon avant de la. Oui, j'ai le pouvoir. Oui, mais surtout que dans mon cas à moi, c'est purement l'inconnu à la base qui m'a fait peur. J'étais tout petit, j'étais, mon Dieu, à l'éducation primaire. J'avais 6-7 ans environ. Et mes grands frères, eux, étaient adolescents. Donc, eux, les films d'horreur, ils en mangeaient presque littéralement. Moi, je n'avais pas le droit. Donc, j'écoutais à leur porte parce que ma mère disait. Là, faites pas ça devant Jonathan, là, allez dans votre chambre, blablabla. Bon. Donc, je collais mon oreille et c'est encore pire, qu'est-ce qu'on voit pas? Puis, ça peut nous paraître évident en tant qu'adulte, mais moi, en tant que. Quand j'avais 6-7 ans, j'étais comme, oh, mais pourquoi ils ont autant de plaisir à se faire peur? Puis, du fait que je voyais pas, donc pour moi, c'était de l'inconnu, j'avais aucune idée c'était quoi ces grognements-là, puis ces cris de mort-là. J'ai fait des cauchemars, bien évidemment. Fait que c'est ça qui m'a apporté éventuellement, amené, excusez, à comprendre la peur. C'est ce qu'on ne voit pas, donc l'inconnu, ce qu'on ne comprend pas. Donc oui, tout à fait, pour répondre.
Christophe?
Ah ben justement, pour parler cinéma, la remarque que j'étais en train de me faire quand tu parlais, c'était que les films d'horreur à monstres, généralement, tant qu'on voit la griffe, tant qu'on voit la morsure, tant qu'on voit le bruit derrière le fourré, on a peur. Et alors, je ne sais pas si c'est les trucages qui sont mal faits ou le fait de le savoir, mais une fois que le monstre apparaît en gros plan, c'est fini, quoi. On a peur qu'il se fasse bouffer, mais on n'a plus peur du monstre.
Même question pour Adrien.
Alors moi, je vais apporter une réponse biologique, c'est mon cursus. La peur, c'est un déclencheur de réaction. Effectivement, c'est quelque chose de très très primitif, très ancré dans la plupart des espèces animales à l'heure actuelle, jusqu'à un certain point. Et c'est en fait, pour moi, la peur, c'est ce que j'essaie de transmettre dans Notre-Dame des Loups, c'est que la peur ne peut donner que lieu qu'à trois réactions, en fait, c'est-à-dire le camouflage, la fuite ou la contre-attaque. Et ce sont les trois réactions standards comportementales qu'on retrouve chez quasiment toutes les espèces animales selon la menace à laquelle ils sont exposés, en fait. Et c'est ça que moi, c'est comme ça que je définis la peur, l'horreur. C'est l'élément qui déclencheur qui va obliger le personnage ou l'animal du coup à réagir d'une de ces trois manières.
Et c'est là-dessus, Adrien, que tu bases tes récits.
Certains de mes récits, oui, mais dès que j'ai besoin de confronter à quelque chose de d'effrayant, de puissant, d'inquiétant, de quelque chose qui se cache ou au contraire quelque chose qui est très visible, oui, je fais en sorte de baser ça là-dessus, oui, clairement.
Christophe aussi. Je m'excuse de vous voir partager le micro alors qu'il y en a des autres, mais à mon avis, ils ne sont pas. Non, ça ne marche pas.
L'inconnu, ça marche un moment. Notamment pour les récits un peu articulés, évolutifs, on va dire. C'est-à-dire que, contrairement au film à monstre, justement, selon l'histoire qu'on veut raconter, si à un moment donné, on donne pas à voir la menace, très rapidement, c'est une menace éthérée comme ça, et l'humain s'habituant à tout, on sait qu'on a peur vaguement, quoi. Et je l'ai déjà dit hier, mais c'était pas les mêmes personnes. Je répète, la définition d'Hitchcock du suspense, c'est deux personnes qui discutent de tout et de rien pendant un petit moment à une table, et boum, la table explose, il y avait une bombe sous la table. Donc on est surpris, mais pendant le quart d'heure qu'a duré la conversation, on s'est un peu embêté, quoi. Alors qu'il suffit de montrer la bombe au premier plan avec le compte à rebours 5, 4, 3, 2, 1. Et à ce moment-là, même les propos insignifiants créent l'angoisse, puisqu'on se dit, mon Dieu, ça va exploser. Et eux, ils parlent de trucs insignifiants dont on se foutrait normalement. Mais là, ça prend une ampleur. Mais quand vont-ils le voir, tout ça? Donc, c'est le contraire de l'inconnu, finalement. Puisque c'est un autre ressort aussi.
Oui. Jonathan?
Oui, j'irais un petit peu plus loin même que au-delà de l'inconnu ou du monstre ou du la bombe sur la table. Quelque chose qui, moi, en tant que lecteur, parfois m'horrifie, c'est lorsque l'horreur me semble, dans une histoire, consentante. C'est-à-dire qu'il n'y a ni bourreau, ni victime, que c'est consentant. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est j'ai déjà lu une histoire. Là, je suis très mauvais pour retenir les noms d'auteurs, surtout quand j'ai le décalage horaire, je suis fatigué, mais c'est un auteur américain, désolé, que c'était l'histoire d'un homme et une femme qui tombent en amour, mais que leur déviance, leur sexualité n'était pas du tout, du moins comme la mienne, je ne sais pas vous, il aimait se sculpter, ok. Donc c'était ça qu'il était vraiment avec, comme s'il était du matériel à devenir une statue ou une. Et oui, la douleur était là, oui, mais puis l'horreur naissait non pas de la peur. Ben moi j'avais peur pour eux, je me disais jusqu'où ça va aller. Mais en même temps, eux, les personnages n'avaient pas peur. Contrairement à un récit où il y a un monstre, où l'horreur est extérieure à eux, là, c'était l'horreur de la situation, mais dans mes yeux à moi, dans mon imaginaire à moi, parce qu'eux aimaient ça. Et ça m'a vraiment troublé comme lecture.
Mais pourquoi croyez-vous que les gens lisent des histoires d'horreur en salivant? Pourquoi est-ce que les gens aiment à se faire peur?
Je pense que plusieurs raisons, mais une qui me vient en tête rapidement, c'est que ça va toucher à des tabous. Le plus grand et le plus évident, c'est la mort, mais également tout ce qui est un petit peu différent de l'être humain. Parce qu'on s'entend qu'on parlait des monstres tout à l'heure, mais dans le fond, un monstre, dans l'imaginaire humain, ça va être un hybride entre insectes, animaux et une pieuvre marine. Mais ça ne peut pas aller au-delà, à un moment donné, de notre propre... Tu sais, on a l'impression des fois, « Ouais, j'ai créé le truc ultime! » Ben. Ça va juste être des trucs qu'on a déjà vus et ça n'a pas le choix. Notre imaginaire est comme ça. Bon, j'invente rien. Mais donc, je crois que le plus effrayant, c'est souvent la thématique, ce qu'il y a entre les lignes d'une histoire d'horreur, justement. Donc, la mort, l'amour. Les grandes thématiques qu'il y a également dans la littérature dite... la grande littérature, mais ça en est aussi ce qu'on fait, là, tout ici. Il ne faut pas toujours se mettre comme dans l'état de paralittérature, toujours. Là. Mais non, c'est ça. C'est surtout les thématiques, ce qui nous reste après, surtout, au-delà du monstre. Ou de...
C'était la phrase de Napa de Feng, non? Et la question, c'était pourquoi on aime se faire peur, c'est ça?
Ben, oui, pourquoi
que ce soit lire des livres, regarder des films ou vivre, c'est on recherche une émotion. Donc se faire peur, c'est une émotion. Donc comme disait primale, quoi. Je pense que c'est ça. Hein, c'est après pour revenir vaguement au thème, est-ce que le fantastique veut dire peur? C'est pas non plus forcément obligatoire que pour un récit fantastique, c'est pas forcément basé sur la peur. C'est peut-être juste sur l'étrange, sur le. Mais pourquoi? Oui, on lit pour essentiellement pour vivre ce qu'on vit pas.
Au-delà de ça, moi j'ai tendance à penser, j'ai deux approches pour pourquoi on a envie de se faire peur. Alors moi personnellement, j'aime pas trop ça. Je suis pas très fan des films d'horreur, ça m'a jamais fait plaisir. Au contraire, pour moi c'est une émotion qui est négative, la peur, et je vois pas l'intérêt de m'infliger volontairement une émotion négative. Donc je regarde assez rarement des films d'horreur ou des trucs comme ça parce que c'est pas mon truc. Mais ma perception pour pourquoi on aurait envie de se faire peur, je vois deux solutions possibles en fait. Là encore en partie inspiré de mes études de biologie parce que j'y reviens toujours. La première, c'est que c'est une émotion qui est viscérale, primaire, très importante en fait, qui doit amener une réaction de survie. C'est-à-dire qu'en gros, la peur est un déclencheur de survie. Donc, deux possibilités. La première, c'est qu'il faut bien s'entraîner. Parce que quand on n'est pas soumis régulièrement à des prédateurs, à des dangers, etc., peut-être que les films d'horreur, les bouquins d'angoisse, etc., c'est un palliatif à ça, une manière de se rappeler que la peur existe et que la peur est un déclencheur qui doit fonctionner, qui est fonctionnel dans le corps. En fait, on ne peut pas s'empêcher d'avoir peur. C'est important, la peur, parce que c'est ça qui va nous faire survivre le jour où on va se retrouver avec un type avec une tronçonneuse. En gros. Et aussi, je pense aussi que justement, ce besoin d'entraînement et ce besoin d'avoir peur est aussi lié au fait que dans notre vie de tous les jours, on en rencontre finalement assez peu d'éléments qui déclenchent véritablement de la peur. En fait, à part, pour les arachnophobes, désolé, votre vie est plus difficile que les autres, mais j'ai pas l'impression, par exemple, qu'en Syrie à l'heure actuelle, je pense pas que les films d'horreur fassent le plus gros carton de leur vie au cinéma. Je pense que c'est compréhensible. Et par contre, en France, où c'est quand même moins pire, il y a plus de gens qui s'intéressent à ressentir les effets de l'épouvante et de l'horreur. Parce que je pense qu'instinctivement, viscéralement, de manière primitive, l'humain a besoin de ressentir la peur parce qu'il sait que la peur est un instinct de survie nécessaire.
Jonathan, c'est pour ça que tu en écris, c'est que tu as besoin de susciter ça chez le lecteur. Oui. Ou bien simplement parce que ça marche au Québec et que, en fin de compte, ça te fait vivre.
Oui, je dirais en fait que c'est purement parce que j'aime le genre. Si je publie, c'est parce que je veux le partager, effectivement, mais à quelque part, de façon très égocentrique, c'est parce que ça me fait. J'écris des histoires que j'aimerais lire, en fait, avec une certaine structure, avec une certaine. Si je les partage, parce qu'il y a d'autres lecteurs qui peut-être ont envie d'y lire, mais sinon, à la base, c'est purement pour ça, purement égoïste, je l'avoue.
Oui. Non, pas la même question. Est-ce que. Vous-même, quand vous écrivez vos histoires d'horreur, vous vous faites peur?
On a le droit de réfléchir à ce qu'on va dire, c'est pas...
Tout à fait.
C'est interdit. Non, peut-être moins que celui qui le lit, parce qu'on connaît le dénouement. Donc si jamais au début du film ou du livre, ce qu'ils font parfois, notamment quand c'est raconté à la première personne, hors twist super éculé de « je suis mort mais je vous parle quand même », on se doute si au début du film on sait qu'ils vont s'en tirer sans blessure, sans « oh on a eu chaud, c'est pas passé loin ». Peut-être qu'on a moins peur que si à tout instant on se demande qui va perdre une jambe, qui va... Et nous on le sait. Au moment d'écrire, on sait au moins qui va survivre pour la suite de l'histoire. Quoi. Donc on se fait peur. Ce qui peut faire peur, c'est ce qu'on trouve en nous. En se disant, moi je suis capable d'écrire ça, je me fais peur. Mais pas peur de l'histoire. Non, ouais.
Et là, vous allez voir un psy alors.
Non, parce que c'est bon, l'histoire est écrite, le mal est soigné.
Non, je suis assez d'accord avec ce point de vue-là. En fait, c'est clairement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la peur est beaucoup basée sur l'inconnu. Et effectivement, quand on connaît la suite de l'histoire, bah, on a forcément moins peur, clairement. De là à dire que j'ai besoin de soins psychiatriques, oui, probablement.
Vous écrivez, c'est déjà une voilà, raison.
C'est de base. Bon, il y a des infirmiers qui nous attendent à la sortie du festival, de toute façon. Hein, ils ne veulent pas qu'on s'échappe. Hein. Je pense que ce besoin-là, en fait, c'est aussi une manière de. Enfin, l'écriture, c'est aussi une manière d'exorciser certains éléments. Moi, par exemple, comme j'ai dit, j'aime pas vraiment avoir peur. C'est pas un truc qui m'éclate. Et peut-être que ça se traduit par le fait d'écrire des romans qui sont pleins de suspense, pleins d'inquiétudes, pleins d'inconnus, pleins de terreur ponctuellement. Parce que peut-être que vu que c'est un aspect de moi que j'arrive pas à accepter, j'arrive pas à apprécier. Peut-être que je le fais sortir simplement et je le dégage et je le mets dans les bouquins et comme ça, ce qui fait peur, c'est dans mes livres et le reste, ben, c'est chez moi. En gros, c'est très, très très schématisé, mais.
Mais quand vous écrivez ces histoires, est-ce que vous savez à quel moment vous allez insuffler la peur, vous allez indiquer au public, au lecteur, là ils vont frémir. Est-ce que vous le savez ou est-ce que c'est quelque chose qui échappe un peu à votre écriture?
Alors moi dans mon cas, j'ai tendance à voir ce que j'écris se dérouler un peu comme dans un film en fait, et du coup j'arrive à identifier les scènes de tension où on est censé à cet endroit-là, j'ai envie que ça fasse flipper ou que les gens se demandent ce qui peut se passer. Donc c'est là que je vais travailler davantage pour créer soit un cliffhanger, soit faire une description particulièrement glauque ou inquiétante de l'ambiance, de la situation. Après, ça peut arriver complètement que ça nous passe complètement à travers, qu'on pense que on décrivait juste une scène comme ça, vite fait, puis en fait, ça fait flipper tout le monde. C'est toujours possible, mais j'ai plutôt tendance à penser que majoritairement, je choisis les endroits où les lecteurs sont censés flipper, majoritairement.
Christophe ?
Moi, il faut dire que j'ai fait des études de mathématiques, moi. Il n'y a pas de raison. Donc, chaque livre est un problème à résoudre. Donc, au moment où je me lance, je connais toutes les articulations. Donc, c'est comme me demander si j'étais cuisinier, si vous mettez du brocoli, est-ce que vous pensez que ça allait avoir goût? Enfin, c'est vraiment une recette pour faire.
Facile.
Voilà. Mais non. Le mot est
faire facile.
L'expression pour faire facile, mais c'est très dur à faire. Hein. Et donc, là où j'ai raté mon coup, c'est si les gens n'ont pas peur à l'endroit où je voulais qu'ils aient peur. Mais je sais exactement, comme une partition musicale ou comme. Il y a les montées, il y a les descentes, ça fait partie du toboggan émotionnel que je construis, quoi.
Dans mon cas, ça dépend du projet. Là, le livre que j'ai apporté ici, c'est une petite novella. Donc, dans ce cas-là, il n'y avait pas vraiment de plan. Je savais où je m'en allais, mais ça allait vraiment selon... Parce que moi, souvent, avant l'histoire, c'est les personnages que j'ai en tête et que j'ai le goût de faire vivre. Et je sais qu'ils ne sont pas vivants en dehors de ma tête, mais c'est eux qui m'amènent. Dans le sens, dans mon imaginaire, c'est eux qui m'amènent à... je vois... Mais donc, pour des novellas, je ne fais pas vraiment de plan, pour être franc. J'ai quelques romans plus épais. Là, oui, je sais à peu près... Aux trois quarts, je dirais, je sais exactement où je m'en vais. Je me laisse quelques surprises parce que je veux pas que ça devienne non plus la peinture à numéros. Mais comme on dit, pour un plus long projet, disons comme j'avais écrit Chute ou le Royaume éveillé, oui, là, j'aurais mon plan, j'aurais à tel chapitre, à tel... effectivement, là, oui, je serais là.
Ouais, donc, c'est toi qui as écrit ça aussi, alors?
Ce ne sont que des figurants.
Le fantastique, revenons à lui, fait la part belle au mal. Sous toutes ses formes, c'est une littérature un peu de la souffrance, de la folie ou de l'échec. C'est aussi ça que vous voulez insuffler dans vos récits?
Je me laisse en parler.
Alors moi, dans mon cas, j'ai écrit Notre-Dame des Loups, c'est la poursuite d'une bande de cow-boys, de chasseurs de loups-garous. Qui poursuivent la reine des loups-garous dans le grand nord américain.
Au fin du
19e siècle, donc c'est vraiment l'ambiance Far West, dans la neige, avec des loups-garous. Et oui, le but, c'est de... En fait, j'ai voulu mettre en parallèle... déjà, j'ai voulu combattre le mythe du loup-garou qui était... En fait, il est gentil, c'est une pauvre bête incomprise. J'ai voulu passer par-dessus ce mythe-là et considérer que les loups-garous étaient vraiment des créatures bestiales, méchantes. Enfin, dans le bouquin, j'ai évoqué en métaphore, c'était en gros mettre un singe violent et désagréable à l'intérieur d'une peau de loup. En fait. Pour moi, les loups-garous, c'est comme ça que je les avais définis. Et ce que je voulais montrer, c'était que les chasseurs allaient à la poursuite d'un vrai mal ancestral, de quelque chose de vraiment maléfique, de négatif, d'insidieux, qui se répandait, une sorte d'épidémie monstrueuse de crocs, de poils, de sang, de mort, de deuil. Mais qu'au final, l'horreur, l'angoisse, etc., ne pouvait ne pas venir simplement du mal en lui-même, en fait, pas de l'élément défini comme la grosse cible qu'on doit atteindre, mais aussi de chacun des chasseurs, en fait. Ils ont tous une petite partie, au minimum, de mal, de quelque chose de profondément mauvais, ancré en eux, en fait. Et je voulais montrer en apparence que, à la base, c'est censé être une bande quasiment de chevaliers blancs qui vont traquer la bête maléfique, et au final, la bête maléfique, elle est un peu dans chacun d'eux, et ils sont pas si chevaliers blancs que ça, quoi.
Christophe, le mal est un des personnages de vos récits ?
Certainement. Mon seul vrai roman fantastique, finalement, c'est mon premier, un autre. Retrouvez-le à sa place, dans toutes les bonnes librairies. Et donc, l'histoire, c'est l'histoire d'un homme moyen qui débarque dans un village où il n'a jamais mis les pieds. Et ça commence par le pompiste qui l'appelle par un autre prénom en disant ouais, c'était pas mal hier soir, demain on recommence et tout ça, alors qu'il n'a jamais vu. Jusqu'à une porte qui s'ouvre où sort une jolie jeune fille qui l'embrasse et ah ça y est, il est revenu, c'est sa femme, mais il la connaît pas, quoi. Donc l'élément fantastique, c'est ça, c'est qu'est-ce qui a fait que cet homme on le prenne pour quelqu'un d'autre, d'où le titre. Ça, c'est mais on réfléchit aussi, hein. et le mal intervient quand on se rend compte que la personne pour qui on le prend et à qui lui se sent totalement étranger, là il y a un problème dans la phrase, mais vous aurez corrigé, effectivement il est maléfique au sens de il est pervers, il est violent, et il déteint petit à petit sur lui. Alors est-ce que c'est bon, ça il faut lire le livre qui est très bien. Mais donc effectivement, on en revient au mal à un moment donné, pour tout ce qu'on a dit au début de la table ronde, c'est que c'est un bon ressort. Et c'est effrayant qu'on nous prenne pour quelqu'un d'autre, alors qu'on est tout gentil, quelqu'un d'autre de méchant, quoi.
Jonathan, dans la légende de MacNeil, en effet, le mal est présent.
Oui, le mal est assez présent.
Avec un grand M majuscule.
Ah oui, avec un grand M majuscule. Je dirais que sans trop vous dévoiler la finale ou quoi que ce soit, parce que c'est assez court, le mal, dès les premiers chapitres, c'est des très courts chapitres, apparaît dans les yeux d'une enfant de 10 ans. La personnage principale se nomme Marie et c'est une femme, bon, une jeune femme qui a... eu assez tôt une petite fille. Et cette petite fille-là, précisément lorsqu'elle elle va avoir bientôt 10 ans, là, dans quelques jours, le mal apparaît. Okay? Mais c'est, pour l'instant, ça n'a pas l'air avec un grand M. T'sais. C'est juste que c'est comme un regard qui rappelle à Marie qu'est-ce qui s'est passé à l'époque. Je ne peux pas vous dévoiler rien de plus. Mais donc, le mal commence, est déjà là, mais on n'en voit pas tout l'ampleur au début de la novella. Ouais, je dirais ça par rapport à... au mal avec un grand M.
La littérature fantastique du 19e, celle qu'on connaît bien, Maupassant, Balzac, Hoffmann, c'est un peu plus tôt ça d'ailleurs, tout ça fait appel régulièrement à des grands mythes, à des monstres, à des sorcières, aux fantômes, aux diables, etc. Adrien utilise encore ce genre de personnage avec les fameux loups-garous, les lycanthropes qui s'appellent des Wendigos dans ce bouquin. Pourquoi avoir repris cette imagerie du 19e ?
Alors en fait, c'est parce que c'est une imagerie qui est connue facilement du lecteur. C'est un truc que j'utilise assez régulièrement, c'est que j'ai beaucoup de mal à créer des créatures qui n'ont pas un nom qui existe déjà, en fait. C'est-à-dire qu'instinctivement, On associe à un mot, à un terme, plusieurs traits qu'on connaît déjà. C'est-à-dire que les loups-garous, je voulais vraiment leur rendre, rappeler immédiatement quand on prononce le mot loup-garou, immédiatement, les gens ils pensent au loup, à la pleine lune, au bal d'argent, à plein d'éléments. Que ensuite, une fois qu'on a donné cette première base, on peut associer ou dissocier. Si on considère que, ben, par exemple, on fait des vampires, mais les vampires, là, ils n'en ont rien à foutre, ben, on ne parle pas d'ail, on ne parle pas de croix, on ne parle pas de cible. Par contre, on parle bien du cercueil ou du soleil. Enfin, c'est ce que fait Anne Rice. Elle s'est débarrassée de certains, dans l'entretien avec un vampire, elle s'est débarrassée de certains éléments associés traditionnellement aux vampires. Elle en a conservé d'autres, elle en a ajouté de nouveaux. Et c'est un peu le même travail que j'ai voulu faire sur les loups-garous dans Notre-Dame des Loups, notamment en les associant à la légende du Wendigo, qui est une légende nord-américaine qui n'est pas forcément associée, voilà, qui est pas forcément associée au, voilà, c'est pas forcément associé au loup, c'est associé à la faim en fait, c'est des êtres de faim infinie qui en gros les Indiens algonquins croyaient que les Wendigo c'était ce qui arrivait à ceux qui succombaient au tabou absolu qui était de consommer de la chair humaine en fait. Et donc du coup qui devenait l'espèce d'esprit vengeur qui était animé par une faim insatiable et impossible à arrêter. Et j'ai trouvé que c'était quelque chose qui était potentiellement associable avec le mythe plutôt européen du loup-garou, donc qui est d'origine romaine à la base. Et je trouvais que c'était intéressant, la faim infinie c'était quelque chose qui me parlait et je trouvais ça intéressant d'associer ça à la bestialité, la sauvagerie. Associer les deux, je dirais, ça peut être intéressant d'imaginer que les loups-garous sont partis dans le Grand Nord et sont devenus, du coup, là-bas, ont été appelés Wendigo parce qu'ils avaient le même intérêt. Et c'est pour ça que j'aime bien utiliser des mots qui existent déjà et retrouver des concepts qui existent déjà, quitte à les faire bouger un petit peu pour associer à ce que je veux dire.
Sans parler de vos livres, Christophe et Jonathan, il y a aujourd'hui toujours une utilisation très importante de ces grandes images, Twilight, Vampire Diaries, et puis toutes les images de la Beatlit qui quand même continuent à se vendre. Comment expliquez-vous ça? Pourquoi est-ce qu'on est aujourd'hui en 2017 encore accroché à des imageries qui datent de plus d'un siècle?
Alors, quand j'ai appris le titre de la table ronde, le fantastique moderne, je me suis demandé de quoi on allait parler. Et en arrivant ici, j'ai posé la question à plusieurs personnes et on en est venu à la conclusion que le fantastique moderne, c'était le fantastique écrit par des gens vivants. Ce qui permet de répondre à la question en disant que c'est normal de récupérer les vieilles peurs, les vieilles figures, puisque comme Poe, comme les autres, on est pareil, mais on est vivant. Donc on écrit des nouvelles histoires avec ceux qui avaient des... Comme on utilise les mêmes mots, les mêmes phrases, l'alphabet est le même il y a 200 ans et maintenant, donc il n'y a pas de raison que les monstres soient différents aussi, quoi. Sachant que, moi je le fais pas vraiment, mais on peut profiter des progrès technologiques, par exemple faire un monstre informatique, ou ça serait une façon de...
Comme dans Poltergeist.
Voilà, oui.
Le monstre qui surgit de la télévision. De la télé, voilà, oui.
Mais finalement, si on creuse un peu, c'est rien d'autre qu'une revisite de...
Jonathan ?
Il y a eu un point. Okay. Oui, je suis entièrement d'accord avec mon collègue ici. Mais dans le sens qu'on ne réinvente pas les mythes. Et je reviens à ce que je disais tantôt par rapport aux monstres. Ah, j'ai inventé le monstre nouveau. Non, ça va toujours rester les principales bases. Est-ce que c'est un vampire? Est-ce que c'est un loup-garou, donc une bête qui est partiellement humaine, partiellement? Est-ce que c'est un extraterrestre qui vient d'ailleurs? Mais les mythes restent toujours les mêmes. Quelqu'un qui arriverait avec une nouvelle idée, ça, selon moi, et tant mieux si je me trompe, mais ça serait un hybride ou un dérivé de... « Ouais, mais moi, mon vampire, il est... » »« Oui, mais t'as prononcé le mot vampire. Ça reste un vampire. Ça... »« Ouais, mais il n'y a pas de dents. Il... » »« Je sais pas, moi, il se nourrit pas de sang. » »« Non, mais il draine l'énergie. Ça reste un vampire. » Tu sais. Donc, les mythes ne changent pas, mais c'est nous, en tant qu'auteurs, à y apporter, au travers de nos personnages, des ambiances, bon, la façon qu'on explore ces mythes-là, notre grain de sel plus personnel, disons.
Moi, j'avais l'impression que dans le fantastique contemporain, moderne, c'était plutôt la réalité qui se délitait aux yeux des héros et que ce n'étaient pas les grandes figures. Il y a de ça, déjà, chez Maupassant, avec le Horla, c'est quand même une certaine réalité qui se délite et qu'aujourd'hui encore, c'est ça. Et C'est quelque part un peu le ressort de certains de vos romans, Christophe.
Moi, je pars du principe que pour qu'on croie à la partie fantastique du récit, il faut que la partie pas fantastique soit très crédible. Et parce que c'est très crédible, au moment où ça bascule, j'ai la confiance du lecteur. Il me dit jusqu'à présent, il ne m'a pas menti. Donc là, quand il se passe ça, c'est qu'il se passe vraiment ça, puisque tout le reste tient debout. Donc c'est peut-être un artifice pour faire croire à la partie incroyable. Peut-être qu'à l'époque, rien que le fait de basculer, déjà, c'était en soi remarquable. Donc il n'y avait pas besoin non plus que ça tienne trop debout, quoi.
Vous faites de la littérature presque fantastique, un peu genre X-Files.
Pour le camp, c'est à fond,
ouais.
Ça c'est sûr. Et là aussi, c'est très ancré dans... En fait, c'est une super production de science-fiction américaine qui se passe dans un petit village des Cévennes. Et c'est du post-apo aussi, parce que l'armée intervient et tout, mais dans les montagnes, il y avait les gens du cru, et donc ça apporte un côté très, très ancré dans le réel. Et du coup, je trouve surtout moi qui suis de là, mais on peut s'identifier, on a l'impression que si, étant donné que c'est fait de façon à ce qu'on se dise ça pourrait arriver, si ça m'arrivait à moi, je ferais sûrement comme lui, ou comme lui, ou comme lui, mais ça serait terrible, ça serait angoissant, ça serait... et hop, on revient au...
Et chez Jonathan, il y a ce glissement comme ça de la réalité aussi, parce que je n'ai lu que celui-là, Jonathan, excuse-moi.
Oui, souvent. En fait, c'est un... D'abord, en tant que lecteur, c'est ce que je recherche beaucoup, le glissement de la réalité. Puis donc, en tant qu'auteur aussi, c'est ce que j'essaie de créer chez mon lecteur. Je pensais, pendant que la question était posée ou tout ça, un exemple très précis au Québec, l'auteur Joël Champetier, avec le roman « La peau blanche », qui est, à mon sens, un des très, très bons romans québécois que j'ai lus de fantastique. Et le fantastique, c'est une petite pointe, comme on dit, c'est un fragment du roman qui fait qu'on y croit lorsque ça se déroule, parce que les personnages sont tellement vivants, tellement attachants. Ça se passe à Montréal, c'est une histoire courte, là. C'est un Français qui va étudier la littérature québécoise à Montréal même. Et donc il rencontre un nouveau coloc, un ami, un Haïtien, dont c'est un Québécois, mais de descendance haïtienne et tout. Tu sais, c'est des personnages, on pourrait les connaître, là, on a le goût de leur parler et tout. Lorsque le fantastique survient, on s'en rend même pas compte en tant que lecteur, et le piège se referme. Donc ça, à mon sens, au niveau du glissement de la réalité, c'est assez fabuleux.
Pourtant, Adrien, lui, il reste dans les univers un peu moyenâgeux de sa fantasy. Et ici, le 19e siècle western, on n'a pas envie, tu n'as pas envie, Adrien, d'éclater un peu dans le monde d'aujourd'hui?
Si, ça, je pense que ça ne va pas tarder. J'ai commencé un projet là-dessus, justement, qui est, à la base, c'est une sorte de dommage un peu moqueur à la bitlit, en fait, que je trouve c'est une littérature qui est très intéressante, qui a réussi à redonner une sorte de coup de sang au fantastique.
Coup de sang, c'est le cas. Hein.
Voilà. Alors, en bien ou en mal, hein, parce qu'il y a du très bon et du très mauvais en bitlit, donc il ne faut pas non plus tout mettre dans le même panier. Mais j'ai trouvé que c'est intéressant de cette résurgence du fantastique et justement des vieilles figures, des vieux mythes, des loups-garous, des fantômes, des fées, des trucs comme ça. Et je vais travailler là-dessus. Du coup, j'ai commencé un projet. Pour ceux qui connaissent un peu, j'ai fait deux nouvelles dans cet univers-là sur une inspectrice parisienne qui est chargée de la coordination des espèces du voile. C'est-à-dire qu'en gros, elle doit gérer les loups-garous et les vampires qui se font la guerre à Paris, les fées qui dealent de la drogue, les trolls qui tiennent des boîtes de nuit, et faire en sorte que tout ce petit monde s'entende plus ou moins bien avec la communauté mage de Paris. Donc j'ai commencé un projet là-dessus parce que justement je voulais voir un peu ce que ça faisait de m'ancrer cette fois, pour une fois, dans le monde réel. J'ai essayé de quitter un peu le Moyen-Âge et le 19e siècle pour essayer de trouver un peu autre chose et voir si je pouvais... Ça me demandera, j'imagine, moins de recherche parce que ben, c'est quand même plus facile. Donc c'est par pure fainéantise, et j'assume.
Et Christophe, comme La Chute, c'est un vrai polar, tu vas quitter le monde... Du fantastique ou de l'irruption?
Oui ou non, je sais pas. Pour moi, mes quatre romans, c'est du thriller. Dans un, c'est plutôt, il y a une touche fantastique. Dans Le Camp, c'est plutôt une touche de science-fiction. Dans Projet Harmonie, c'est plutôt une touche d'anticipation rétroactive. Enfin, dans celui-là, il se trouve qu'il n'y a pas d'éléments fantastiques. Dans le prochain, j'en sais rien. C'est, moi, j'essaye d'écrire des livres bien à lire, quoi. Des livres qui sont bien de les lire. Et si, au moment de la conception de l'histoire, l'apport imaginaire va dans le sens de l'histoire et fait exploser le... rend le livre meilleur, je vois pas de problème à que je rajoute un policier, un élément fantastique, une jeune fille de 18 ans pour que le lectorat féminin se reconnaisse. Enfin, ça fait partie des ingrédients qui me font construire, à mon sens, avec l'idée que j'ai, comment exploiter au mieux l'idée pour en voir toutes les facettes, tout rendre le truc le plus palpitant possible. Donc c'est ce qui est bien avec cette nouvelle collection Outre-Fleuve, placement produit, allons-y. C'est que justement, c'est censé être multigenre. Il n'y a pas de barrière, donc elles y sont toutes et aucune. Enfin, les livres sont bien, voilà. Les miens, en tout cas.
Oui, parce que tu n'as pas lu les autres. Et Jonathan, après 15-20 ans avoir écrit de l'épouvante, t'en as pas marre ?
Pas du tout. Non, en fait, je pense que j'ai pas encore tout raconté, ce que je voulais raconter ou faire vivre certains personnages qui sont encore dans le creux de mon imaginaire, qui ont hâte de sortir. Je me suis déjà essayé, mais par des nouvelles plutôt courtes, parfois une fois en science-fiction, mais c'est pas ma tasse de thé, fait que j'avais l'impression de faire quelque chose qui se faisait peut-être il y a 20-30 ans déjà et de faire de la redite. Alors je me disais, non, c'est pas ma... Non, c'était vraiment pas ma tasse de thé, disons. J'ai écrit une fois une histoire purement réaliste qui n'avait aucun thriller dedans. Et pour être franc, j'ai pas trouvé ça plaisant. Mais bon, je sais pas. Peut-être ça vient justement, encore une fois, des films que mes grands frères regardaient. Puis bon, je sais pas, on dirait que je suis confortable dans ce qui fait peur aux gens. C'est drôle à dire, hein?
Oui, mais il faut parfois quitter sa zone de confort, hein?
Oui, oui.
En fait, est-ce qu'un roman fantastique exige une mise en scène, une écriture, une forme particulière? Dans le roman Notre-Dame-des-Loups, Adrien laisse parler chacun des personnages. Dans... La légende de MacNeil, tu vas entre 1996 et 2006, 1996, pardon, et 2006. Je m'excuse, je suis belge. Est-ce qu'il y a comme ça une forme particulière dédiée à ce genre, Adrien ?
Alors, je suis pas sûr que ce soit obligatoire, en fait. Mais je pense que la forme, c'est quand même quelque chose de très important, justement, pour atteindre le moment du frisson, le moment de l'inquiétude, le moment de l'angoisse. Avoir une forme particulière qui aide à construire le bouquin, ça aide clairement. Moi, je sais que Notre-Dame-des-Loups, c'était un exercice d'écriture parce que je n'ai jamais autant travaillé une structure de livre que dans ce bouquin-là. En fait. C'est-à-dire que mes romans de fantasy, ils sont travaillés dans les personnages, dans les interactions, dans l'histoire. Mais la structure est, on va dire, relativement classique. C'est du roman choral, chacun parle de chacun son tour en faisant avancer l'histoire petit à petit. Notre-Dame-des-Loups, il y a une particularité que je ne vais pas révéler parce que c'est un spoiler, mais qui fait que ça m'a permis de construire le bouquin de manière à le rendre le plus accrocheur possible, de manière à ce que, en gros, j'ai jamais rencontré personne qui m'a dit Notre-Dame-des-Loups, ben, j'ai commencé à lire et puis j'ai arrêté au milieu et puis je l'ai repris 3 jours après. Généralement, bon, déjà, c'est un bouquin très court, donc ça se lit vite, mais en gros, ceux qui l'ont pris et qui l'ont lu, en 3 jours, c'était fini, quoi. C'est en 3 heures, il l'avait fini, il l'avait commencé, il l'avait fini, puis c'était fini. Voilà. Le but de la structure était fait pour qu'il ne puisse pas être lâché facilement. Et c'est quelque chose qui m'a amusé et que j'ai développé exprès. Après, je suis pas convaincu dans la littérature fantastique qu'il y ait une recette magique ou qu'il y ait une structure particulière qui soit nécessaire, en fait. Je pense que toutes les structures peuvent marcher.
Jonathan ?
Oui, effectivement, et je dirais que ça dépend justement de l'histoire même, au-delà du genre. Tu sais, par exemple, quelqu'un qui écrit de la fantasy n'est pas obligé d'avoir 10 tomes, et ça peut être une courte novella de fantasy, pourquoi pas, tu sais, ça se peut. Donc, disons dans mon cas, pourquoi disons 2006, c'est parce que c'est relié justement à la petite fille de 10 ans, je vous disais, avec vraiment le mal dans les yeux, et bon, qu'est-ce qui s'est passé avant sa naissance, pour que... Donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette forme-là, cette construction-là. Mais elle aurait peut-être pu être racontée autrement, cette histoire-là, et être aussi intéressante. Ben, là, on a l'air de s'enfler la tête depuis tout à l'heure avec nos histoires, mais disons, moi, j'ai choisi de la raconter comme ça, avec des très, très courts chapitres, pour maintenir un suspense, évidemment. Voilà.
Mais tu n'as pas de formule?
Non, en fait, j'aime pas beaucoup, personnellement, l'idée de recette. Je le fais peut-être de façon inconsciente, mais j'aime pas dire, OK, oui, ce qui fait peur aux gens de ce temps-ci, c'est tel truc, et on va incorporer ça au milieu du livre, ou je vais mettre un cadavre au début, les gens vont se demander, OK, qui a tué cette personne? J'aime pas l'idée des recettes. Mais comme, je vais me répéter, mais peut-être je le fais de façon inconsciente aussi. Là. Mais de façon consciente, j'essaie juste de me laisser guider, disons. Ouais.
Et Christophe, il a des recettes, des formes particulières pour ses bouquins?
Moi, je suis un lecteur tardif qui était hermétique à la lecture jusqu'à 17 ans. J'ai presque rien lu.
Il s'est bien rattrapé.
Et donc, j'ai l'impression d'écrire... d'écrire au lecteur qui n'avait pas trop envie de s'y mettre que j'étais, en essayant... donc, la recette, c'est une fois que j'ai l'idée de l'histoire et tout ça, de la raconter de la façon que j'estime la meilleure. Donc, qui est du fantastique, qui n'en est pas, qui est donc... le fait qu'il y ait du fantastique ne me la fait pas raconter. Enfin, sûrement que si, il me la fait raconter différemment, mais pas parce qu'il y a du fantastique, parce que l'histoire voudrait ça, quoi. Et après, j'ai le souci à chaque page, à chaque phrase, à chaque d'essayer. Donc, tu disais page turner, parce que tu es bilingue, de toute évidence. Au Québec, on dit
Ouais, on dit page turner, ouais.
Comment quoi?
Mais vous faites du shopping ici, hein.
Mon souci, c'est ça, c'est à chaque moment, j'ai peur de me perdre moi jeune. Donc au moment où je travaille, où je relis, je me dis, moi à 15 ans, est-ce que je me serais arrêté à ce moment-là, ou est-ce que j'aurais eu envie de savoir la suite? Donc est-ce que ça a à voir avec le fait d'écrire du fantastique ou pas? Je ne suis pas sûr.
Vous faites des plans très précis, chacun, pour travailler dans vos bouquins? Vous avez un synopsis vraiment qui vous oblige à faire ça, ou bien vous vous en échappez complètement?
Alors moi, je m'ennuie très vite, donc j'ai beaucoup de mal à faire justement ce qu'on disait tout à l'heure du coloriage à point. C'est savoir avoir tout tracé à l'avance et ensuite y avoir juste à écrire le texte autour du squelette qu'on a déjà fait. Ça m'ennuie au plus haut degré, donc généralement je le fais pas en fait. Les rares bouquins où j'ai commencé à tracer un plan très précis, je les ai jamais fait parce que je me suis dit pourquoi les faire. Ça m'intéresse pas, ils sont déjà faits, c'est fait là. Donc non, j'ai plutôt tendance à être un peu chaotique dans ma manière de fonctionner, c'est-à-dire que j'ai des idées, les idées j'essaie de les rassembler, je crée les personnages, je crée la situation de départ, je me dis ils doivent arriver à peu près là, je mets 2-3 jalons en disant il faut qu'il y ait ça, à peu près ça comme péripétie ou comme événement important, marquant, puis après je lâche et puis on y va quoi. Et j'y vais petit à petit en me rapprochant des jalons, ou des fois je les esquive parce que finalement ça fait plus sens au moment où j'arrive. Finalement, bah, il n'y a aucune raison qu'ils tombent sur cet obstacle-là ou qu'ils réagissent de cette manière parce que ce n'est pas logique avec leur caractère finalement. Donc j'ai plutôt tendance à éviter de faire des plans. Dans le cas de Notre-Dame des Loups, je me suis un peu forcé parce qu'il fallait quand même qu'il y ait une logique de succession des discours des personnages, en fait. C'est-à-dire qu'ils parlent les uns à la suite des autres. Et ils devaient parler dans cet ordre-là, et il fallait qu'ils amènent chacun leur pierre à l'histoire pour que ça se construise petit à petit. En fait,
que ça fasse une histoire, et pas une dizaine
d'histoires. Donc il fallait que ce soit quelque chose de court, et donc du coup, j'ai dû insister un peu plus sur le plan et la structure que ce que je fais d'ordinaire.
Christophe ?
Je rejoins tout à fait le fait qu'une fois que le plan est fait et bien fait et qu'on doit s'y tenir, c'est très ennuyeux à écrire. Et c'est ce que je fais, moi. C'est-à-dire que ce qui me plaît, c'est de trouver l'histoire. Après, le moment d'écrire qui dure peut-être 90% du temps, je souffre. Je suis à l'usine, quoi. Je ne prends pas plaisir à écrire, sauf justement quand les personnages, la situation fait que le plan est obsolète. Et à ce moment-là, je suis content parce que ça me force à changer le plan.
Mais pourquoi tu en fais alors au départ?
Mais c'est grâce... Ah non, parce que je le change à la marge quand même. Des fois non. Et alors ça, c'est terrible. Hein. Quand l'histoire veut que ça serait mieux autrement, je suis content parce que j'ai un autre plan à faire, mais j'ai l'impression d'avoir foiré mon coup au moment du premier plan, quoi. Mais par contre, c'est justement la petite surprise qui fait que je vais être obligé de changer mon plan, qui fait aussi que je passe des heures à écrire en serrant les dents, parce qu'il y aura peut-être ce petit moment où il faudra recommencer, quoi. Ah non, mais c'est...
Oui, ben je renchérirais là-dessus. Non, en fait, je reviendrai sur l'élément de surprise qui fait que là, tu as un plaisir. Hein? Et justement, c'est parce que, tu sais, en étant des créateurs, on veut se surprendre parfois nous-mêmes. Puis, c'est ça, c'est cet élément-là qui fait, oups, OK, mon histoire, finalement, va ailleurs, va... pour répondre rapidement à la question, parce que je pense que j'avais comme devancé tantôt en disant que dans des trucs plus courts, je ne fais pas vraiment de plan, mais pour des trucs plus longs, oui. C'est peut-être pour ça que j'ai fait plus de trucs plus courts dans ma vie, des novellas ou des nouvelles, parce que là, je m'amuse, justement. Tandis que j'avais l'impression, je ne sais pas, je pense à mon roman Nocturne que j'avais publié en 2005. Il y avait un plan, puis je m'étais laissé très peu de place aux surprises, puis effectivement, je m'emmerdais. T'sais, c'est... oui, parfois, les personnages allaient ailleurs, mais à l'époque, ça fait juste 12 ans, mais c'est que je voulais être fixé, voyons, être soudé à mon plan, puis dire non, c'est comme ça qu'il faut faire. Je me laissais moins de latitude, alors que j'aurais dû prendre ça peut-être plus relax, dire OK, on va laisser les personnages aller, comme je fais maintenant finalement. Mais en tout cas, j'espère que si je fais un truc plus long éventuellement, donc un roman de, je sais pas, 300-400 pages, que je vais me laisser plus de latitude que ce que je me faisais là.
Mais est-ce que les contraintes n'obligent pas à mieux créer, à avoir plus d'imagination?
C'est ce que j'ai, justement, de ce que tu dis me fait dire, parce que là, je donne l'impression que je suis malheureux, mais... Ça va bien. Le fait d'avoir, pour moi, un plan très construit, ça me permet... Alors, je ne dis pas que c'est un plaisir non plus, ça me permet de me concentrer sur la façon... à l'intérieur du plan, la meilleure pour aller de ce point à ce point, même si les points sont rapprochés, il y a mille façons d'y arriver et j'essaye de trouver. C'est pour ça aussi que je souffre aussi, c'est que c'est au niveau de la syllabe. C'est-à-dire que il y a les paragraphes, il y a les enchaînements, il y a les ambiances qui montent, qui descendent, il y a les dialogues. Mais si jamais tout est bien comme je veux, qui me permet, j'essaye d'imaginer ce que le lecteur pense au moment précis, quand il en est là, sachant qu'il a lu ça et que je lui ai fait croire ça, ou que il doit penser ça. Donc ça me permet, si je dis ça, je mens pas, mais lui, avec tout ce qu'il sait, il va croire ça, bonne maison. Et une fois que j'ai fait tout ça, que c'est quand même, il faut le faire, il y a le moment où je relis dans ma tête à haute voix, et que ça fait pas la musicalité me plaît pas. Donc il faut changer ce mot qui entraîne de changer cette phrase et qui remet en... Non, je peux passer 4 heures à la fin avoir un paragraphe de 10 lignes que je supprimerai le lendemain en le relisant. Et ça me prend un temps fou. Hein. Le camp, 3 ans et demi. Et ça fait 400 pages. Hein.
L'écriture est une souffrance solitaire ?
Non, moi je suis assez libertaire dans ma manière de voir les choses. Je considère que si on me laisse la bride sur le coup au niveau de l'imagination, c'est ce qui se passe le mieux en fait, c'est ce qui marche le mieux. Moi, plus j'ai de contraintes, plus j'ai du mal à imaginer, en fait. Plus on me dit tu dois écrire en tant de pages et il doit y avoir un héros qui doit être comme ça, il doit se passer ça, et puis la structure doit être comme ça, et puis être dans tel univers. Plus j'ai de contraintes, plus j'ai du mal à créer, plus j'ai du mal à donner corps à mes personnages, en fait. J'ai tendance à penser que si on me laisse tranquille, ça finira par donner quelque chose de cohérent et qui fonctionne. Si je me mets trop de contraintes, même si c'est des contraintes que je me suis fixées moi-même, je me connais assez pour savoir que je vais finir par ruer des brancards, casser tout ce que j'ai fait et puis recommencer à zéro pour faire exactement ce que je veux, mais dans une grande plaine bien libre. J'ai beaucoup de mal avec la contrainte, je ne pourrais pas écrire en contrainte. J'ai beaucoup de mal avec la poésie, par exemple. J'ai beaucoup de mal avec l'écriture de contrainte qui dit qu'il doit y avoir tant de sons par mot et puis ça va finir par tel son et puis il doit y en avoir tant pour que ça marche. Moi, c'est l'horreur absolue. Moi, c'est l'horreur absolue pour moi. C'est être contraint de faire rentrer ce qu'on a envie de dire dans des formes déjà faites. C'est effroyable pour moi. C'est quelque chose qui m'horrifie au plus haut degré. Je déteste ça. Et avoir des contraintes, déjà avoir des contraintes de nombre de pages, déjà, rien que ça, c'est dire à quel point je suis abîmé, rien que ça, ça m'énerve. Rien que ça, de dire, il faut que tu t'arrêtes avant tant de signes, parce que sinon, après, la nouvelle, c'est trop long. Ouais, mais j'ai encore des trucs à dire. Ou alors, il faut que tu ailles jusqu'à tel nombre de signes. Ouais, mais ça y est, j'ai fini, là. J'ai beaucoup de mal avec ça.
Dans les anthologies, tu as dû souffrir, alors.
Beaucoup. Non, généralement, je m'en sors à peu près dans les anthologies, pas parce que je trace des plans, mais parce que je calcule le nombre de pages et j'accélère le rythme si ça doit aller. là tu mets un peu trop de temps pour arriver à ton point et du coup je sucre. Enfin, ça reste de la contrainte, c'est amusant ponctuellement. Mais oui, effectivement, instinctivement, je pense que le roman est plus mon style que la nouvelle ou la novella parce que j'aime bien me laisser aller en fait.
Christophe, il y a quelque chose que tu disais que tu relis à haute voix des paragraphes, etc. Donc la sonorité de l'écriture, ça apporte beaucoup.
Dans ma biographie, il y a marqué que je suis musicien. C'est pas faux.
Oui, t'es guitariste.
Oui, ça, c'est une autre vie quand même. Mais je suis sensible au rythme et à la musique du texte, qui, je pense aussi à un point de vue biologique, peut mettre en condition physiologiquement le lecteur aussi par le rythme des phrases et des sonorités. Ça permet de créer une angoisse, ça permet d'installer une ambiance qui fait, ce que je disais tout à l'heure justement, que ce qui suit peut être pris d'une façon ou d'une autre en fonction de la condition dans laquelle on est, quoi. Et je pense à beaucoup de paramètres parce que je n'ai pas assez confiance en moi pour me dire « écris, de toute façon ça y sera parce que c'est génial ». Et le pire, c'est que quand je me laisse aller, à force, il y a à peu près tout, quoi. Mais comme je n'y crois pas, je retravaille. Et ce qui est aussi vrai, c'est que des fois, je peux relire un passage, le retravailler pendant des jours. Et la version finale, à une virgule près, c'était la version d'il y a une semaine, quoi. Mais là, je suis rassuré en me disant, bon, mais tu as fait de ton mieux, quoi.
Jonathan, il écrit en québécois.
Oui.
Mais, bon, c'est du français, mais avec des tas de formes. Or, beaucoup d'écrivains français édulcorent la langue que vous pratiquez au jour le jour pour la rendre en français, pour se vendre en France. Ici, toi, ça te tente-tu de souper avec moi ? Tu n'hésites pas. Hein, les pi au lieu de pui, etc., sont fréquents. C'est pour donner de la coloration ou c'est pour ton public québécois d'abord ?
Un peu toutes ces réponses, et je rajouterais, c'est parce que c'est comme ça que je le sens. Surtout, mais disons, si on prend au niveau des dialogues des personnages, au niveau du public québécois, on me disait souvent dans mes premiers romans, mais c'est bizarre, ça se déroule pourtant au Québec, et tes personnages parlent trop, ben, pas de façon théâtrale, mais je ne vais pas, blablabla. C'était trop synthétique. Donc, j'ai pris ça en compte, j'ai retravaillé mes dialogues, j'ai pris le temps. C'est quelque chose qui était important pour moi aussi pour justement donner la coloration. Je me dis, je suis né au Québec, je parle comme je parle.
La chute a chuté.
Donc, c'est ça, c'est important pour moi, oui, de conserver ça. Puis ça donne. Tu sais, ici, ça peut faire exotique, mais là-bas, ça passe comme. Bon. Comme c'est ça. Un couteau dans du beurre.
Merci. Merci Adrien Thomas, Christophe Nicolas et Jonathan Reynolds. Merci à vous d'avoir assisté à ce débat et l'avoir écouté studieusement, malgré l'heure du déjeuner. Au revoir, bon après-midi.